Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Aubart, Christine Minetto, Régis Forgione, Hugo et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb.
Nous sommes de retour. We are back. Bonsoir à tous. Bonsoir mes potes. Ça va Jeff? Ça va Seb?
Ça va. Ouais, ça fait plaisir d'être là. Moi, je vous ai lâché depuis un petit moment, là. Je sais pas combien de temps, mais.
Bah, écoute.
J'ai une vie un peu pleine, disons.
On va rien savoir. Très bien. Merci bien. En tout cas, on est bien content pour toi. Non, mais c'est vrai. C'est super. En tout cas, voilà. C'est la fin d'année. Chers collègues profs qui nous écoutez, vous savez comme nous que
c'est
plein de réunions, de spectacles de fin d'année, de nos élèves, de nos propres gosses. Enfin, voilà. On sait toujours que. C'est toujours compliqué, donc un peu difficile pour nous de nous trouver, mais nous sommes là ce soir. Comment ça va?
Ça va, impeccable. Non, la pêche, ça fait plaisir de se retrouver. Hein. Voilà, on est plus sur un rythme d'une fois par mois, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, on va avoir, je pense, une émission riche ce soir.
Je l'espère aussi, mon cher Jeff. Une émission très riche, finement préparée par mes soins.
Allez.
En face, un petit sommaire.
Allez, un petit sommaire. Donc, pas mal d'actu, je vois ce soir. Pas mal d'actu de la classe inversée, de la science, un petit peu. Pas mal de choses. On va parler de Ludovia aussi. Des outils, pas mal d'outils ce soir. On a l'impression qu'on va faire une émission avec pas mal d'outils. On verra un petit peu dans tous les domaines aussi. Seb va nous parler d'un petit truc et astuce. Guillaume va nous parler un peu d'innovation et expérimentation. Et on finira bien sûr par ce que l'on fait en ce moment. Et faut parler d'autre chose. Voilà. On est parti.
Merci pour ce sommaire. C'est vraiment très complet. Ouais, j'ai hâte. Bon, c'est une soirée qui s'annonce chaude, n'est-ce pas? Voilà.
Des petits retours. Non, Seb, je ne sais plus si tu avais regardé.
Non, alors aucun retour sur l'émission précédente.
Oh là là.
Je rappelle, on recevait David Cohen à cette occasion. Merci à lui d'être passé d'ailleurs.
Et on le remercie, c'était une émission vraiment très 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 intéressante. On est bien, et bien écoutez, ma foi, on y va. Et sachez que, effectivement, je viens à l'instant d'augmenter et d'argumenter, enfin de préparer vraiment ma partie sur innovation et technologie et j'ai hâte qu'on y arrive. Voilà.
Oh, là, quel teasing.
Quel teasing.
Wow.
On est parti dans les actus.
On y va.
J'attaque. Bon, alors, on va parler du Click 2019. On en avait parlé un petit moment, il y a un petit moment déjà. Le Click 2019, ça s'approche. C'est le week-end prochain, c'est du 28 au 30 juin 2019. Ça se passe donc au campus Pierre-Marie Curie, de la Faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université à Paris, bien sûr. Vous pouvez bien sûr vous inscrire. En tout cas, les intervenants, le programme est sorti. Il y a du beau monde, comme on dit. On a Jean-Marc Mériot, qui est le DNE quand même, que j'avais oublié, qui sera là sur une conférence d'introduction. Un directeur du numérique pour l'éducation. On a Vandal Wengo qui est prof d'informatique et chercheuse dans le domaine des environnements, qui va nous parler d'intelligence artificielle et l'éducation. C'est en tout cas un sujet en ce moment qu'on entend beaucoup parler de l'IA, hein, que va faire l'IA en tout cas pour l'éducation. On a Jean-Charles Caliez qui est vice-président innovation de l'Université catholique de Lille, qui va nous parler, en tout cas, interviendra en grand témoin sur tout ce qui est innovation pédagogique. On a Marcel Lebrun, qu'on ne présente plus, hein, qui est monsieur un petit peu classe inversée, qui est prof de technologie de l'éducation à Louvain. Voilà. Pardon ?
Ouais, c'est Marcel. C'est Marcel.
Marcel Lebrun, qu'on avait rencontré, hein, tu te rappelles
Ouais.
à Ludovia. Florence Raffin et son équipe d'inverseurs au lycée Maurice Genevoix de Bressure, qui va nous parler, qui est enseignante de physique, qui va nous parler aussi, qui va nous faire une intervention le dimanche 30 sur ces thématiques-là. Donc voilà, c'est quelques-uns des intervenants. En tout cas, c'est toujours de plus en plus riche, en tout cas, ce clic. Voilà. Je m'excuse un petit peu d'avoir été un peu brouillon sur le clic, mais bon.
C'est pas très grave. C'était très rigolo quand tu as évoqué le fait qu'on allait apprendre, enfin en tout cas découvrir ce que l'IA pouvait apporter à l'éducation. L'IA veut aussi dire l'inspecteur d'académie, donc ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, pardon.
C'est vrai, j'avais oublié.
Oui, mais il a disparu. C'est rigolo quand même maintenant.
Oui, c'est le Dazen, mais bon, quand même, pour les plus vieux d'entre nous, bien évidemment.
Un coup d'œil, et on a nos camarades du TADAF qui est dessus. Hein. Tous les dispositifs qui prennent appui sur Twitter sont présents, apparemment. Hein. Je vois qu'il y en a quand même pas mal que l'on connaît, comme Sébastien Franc, Isabelle Vatrinet, pardon, Céline Martinage. Ça, on les avait croisés à Ludovia.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Voilà ce que je peux en dire sur le clic. En tout cas, le week-end prochain, c'est pas trop tard en tout cas pour s'inscrire.
Ok. Et je crois que c'est encore à toi.
C'est encore à moi. Là, je suis un peu dans les. On voit que j'ai perdu l'habitude, hein, vous voyez, hein, non ?
Voilà. Hein. Ouais, les facteurs de science, non ? Ça te.
Allez, on est parti. Je reprends mon truc. Fac de science, c'était moi ça. C'était moi. Ok. Pour les étudiants, pour tout ce qui est test de positionnement. Donc, ça a été une plateforme qui est lancée par Uniciel. C'est l'Université des sciences en ligne en collaboration avec la alors CDU. Je ne me demandais pas ce que c'est CDU. C'est très, très intéressant en tout cas. Ça se trouve, vous tapez FAQ, donc FAQ, hein, de le chiffre science. C'est une plateforme en tout cas en mathématiques, informatique, physique, chimie, SVT. Où on a l'objectif en tout cas de permettre aux étudiants de s'auto-évaluer en forme de challenge ou des formes d'auto-évaluation. C'est vraiment bien foutu en tout cas. Alors oui, il faut avoir quand même des prérequis forcément pour accéder dedans. En tout cas, je trouve que c'est assez ludique, donc ils ont mis une partie un petit peu ludique dessus. C'est vraiment une bonne façon de réviser, de se remettre en tout cas à niveau avant de rentrer en licence, puisque c'est fait pour licence de maths particulièrement. Donc voilà, licence et master dessus. Donc facdesciences.fr, vous tapez dessus et vous allez voir, vous allez pouvoir travailler des ressources et devenir plein de tests, faire plein de tests en tout cas dessus. Voilà, c'est en tout cas une bonne initiative. Comment ?
Ça a l'air propre, tu vois, un petit, que tu disais ludique, mais il y a une belle charte graphique apparemment, c'est pas mal.
Oui, non, c'est très bien fait en tout cas, puis il y a cette petite partie ludique qui est assez sympa aussi là-dessus.
L'idée derrière est quand même intéressante, hein. Ça va pouvoir se positionner, ça rassure. Un petit appel, Ludovia, on en a déjà parlé un bon nombre de fois, on y a participé l'année dernière. Alors Ludovia se multiplie, on avait donc Ludovia bien sûr à Axe-les-Thermes. Ludovia existe aussi en Suisse, c'est Ludovia CH, il a été à Port-de-France cette année et il a une nouvelle itération qui se passe en Belgique. Alors, si par hasard vous êtes attiré par le pays d'à côté, vous pouvez postuler pour leurs export camps. Hein. C'est le même principe apparemment que ceux que l'on connaît pour Ludovia Axe-les-Thermes. Vous avez un appel, vous préparez votre dossier et on mettra, bien entendu, cet appel à intervenant qui a lieu en ce moment et qui dure jusqu'au 15 août. Ben voilà, si vous avez envie de partager vos pratiques, de montrer un petit peu ce que vous faites dans votre classe, vous pouvez tranquillement le faire en répondant à ce questionnaire. En espérant que l'ambiance soit aussi sympa que dans les Pyrénées.
Ok, à moi.
Si tu... on est parti sur, on a fini sur Actu ou non, t'as rajouté quelque chose.
J'ai encore. Là,
vas-y, je t'en prie, vas-y.
Que je voulais mentionner, c'est pas vraiment c'est la frontière des actus et des outils. Voilà, je travaille beaucoup cette année dans le cadre de la liaison école-collège, dans le cadre d'un projet dont je pourrais parler d'ailleurs une prochaine fois, mais peu importe. Et il existe en fait une banque de données de littérature de jeunesse libre. Alors libre, hein, ça veut bien dire sous une certaine licence, qui permet en tout cas en classe de travailler en copiant les ressources, les distribuant, les modifier librement. Voilà, c'est plutôt bien fait. Je vous donnerai le nom, c'est un peu compliqué. Littérature-jeunesse-libre.fr. Voilà, il y a plein de moyens de faire ces recherches par différents tags. Il y a aussi un flux pour des liseuses directes. Voilà, c'est plutôt vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Ma foi, ne pas hésiter pour les collègues du premier degré plutôt, quoique ça servirait en tout cas en cycle 3 sans aucun souci, donc en sixième également, à l'utiliser. Voilà, vous avez toutes les ressources au format PDF ou éventuellement en e-pub. Voilà.
Ah, ça peut être intéressant. Je ne sais plus où je l'avais déjà vu, mais ça peut être intéressant.
Eh ben, en tout cas, c'est chouette. Merci aux collègues qui s'en occupent. Et voilà, pour l'instant, il y a quand même 700 livres. Hein, c'est pas mal. Et je me dis que des fois, les BCD ne sont pas tout le temps les plus fournis, même si elles le sont généralement. C'est très correct, mais on peut quand même accéder à plein, plein d'autres choses. Et surtout, on peut y accéder vraiment de manière légale. Un petit regret en ce qui me concerne. J'aurais rêvé de voir quelques livre en langue étrangère. Je n'en ai pas vu pour le moment, mais j'ai peut-être mal cherché, et puis ça arrivera peut-être. Et voilà, en tout cas, c'est chouette. Voilà.
Alors, peut-être que ça vient un peu, Marc. Tu dois avoir un équivalent, j'imagine, en style en anglais.
J'avoue que je n'ai jamais trop cherché, parce que partant du principe que je me suis toujours parti du principe que ce genre de truc un peu libre était forcément pauvre, ou voilà, et on comprend pourquoi. Mais ça se trouve, il existe des choses, quoi. Il existe des choses, tout à fait, à vérifier.
Bah écoute, si par hasard tu tombes dessus, moi, ça m'intéresse.
Tout à fait, je te le ferai passer.
Est-ce qu'on passe aux outils, Jeff ?
Allez, c'est parti. Outils, c'est moi qui attaque.
Vas-y.
Bah écoute, oui.
Ok, donc je vais parler de Framaschool et PDF. Alors, Frama, ça vous fait penser à Frama, qui est de Framasoft. Oui. Voilà, c'est l'association lyonnaise qui participe à beaucoup de produits libres. Alors, Framaschool a été... j'ai du mal un petit peu à saisir si ça a été détourné ou non. En tout cas, ils avaient sorti ce qu'on appelle une Framaski, qui était, bah, comme son nom l'indique, c'est une clé USB avec plein de logiciels libres à l'intérieur, vraiment en version portable, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin, d'installer, on démarrait directement. Et il est sorti en tout cas par le site qui s'appelle Adaptation pédagogique pour les élèves, qui est de l'Académie Lyon en plus, hein, où il y a vraiment plein de choses dessus, où ils ont sorti un Framaschool qui est justement là, qui est fait pour aider. C'est une compilation de logiciels pour aider les élèves du cycle 3 au lycée. Groupe des logiciels qui peuvent aider bien sûr les élèves dyslexiques, mais également plein d'élèves ayant certaines difficultés. Et moi, je suis tombé sur un lecteur PDF qui est assez intéressant, en tout cas, qui permet, secteur PDF, qui permet bien sûr de surligner le texte, le grossir, le changer de police, etc. Mais surtout, de le lire en voie de synthèse directement. C'est-à-dire qu'on va lancer un PDF directement avec le logiciel dedans, et on va pouvoir lire tout de suite en voie de synthèse rapidement le texte. Donc ça, je trouve ça plutôt très intéressant, en tout cas dessus. Alors il y en existe d'autres, hein, qui faisaient ça, mais là, d'une simplicité comme ça, tout dans le même logiciel, avec tout l'aspect PDF, on va pouvoir mettre aussi des notes, on va pouvoir surligner, on va pouvoir mettre des annotations, vraiment très riche. Donc le logiciel PDF, en fait, quand on démarre Framaschool, on a une sorte de... je sais pas, ouais, un genre de menu, on a un menu à gauche, etc. On a un petit éditeur PDF dedans. Donc quand on vient clique sur l'éditeur PDF, on a cet éditeur PDF qui s'ouvre. et où on va pouvoir faire tout ce que je viens de vous dire avant. Et je trouve que c'est une bonne initiative dessus. Comme on dit, les élèves 10, pourquoi pas, mais un peu les élèves, un peu tout le monde. Hein. Dès qu'on a un peu de difficulté, on peut aller dessus. En tout cas, on peut jouer sur n'importe quel texte PDF. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. C'est vrai qu'on a des outils souvent séparés qui ont une bonne synthèse, qui lient, qui soulignent, etc. Là, on a regroupé dans cet éditeur PDF. En tout cas, dans cette Framaschool, cette clé Framaschool, il y a beaucoup de choses. J'ai pas encore tout fouillé. Mais vous pourrez fouiller par fur et à mesure. Moi, je me suis arrêté pour l'instant sur ce petit lecteur PDF. Vous le trouvez en tout cas dans... Oui, dis-moi.
Vas-y. Non, mais l'apparence du launcher, les applications comme ça, truc, c'est vraiment un copier-coller de la Framaké. Quoi. C'est...
Oui, c'est basé sur Framaké, ouais, tout à fait. Ouais.
Non, mais ça se voit tout de suite. Quoi. Ouais. Est-ce que tu sais si on peut rajouter ou enlever les apps, enfin les logiciels de la même
Bonne question. Non, je sais pas. Non, je suis pas allé jusque là. Moi, je me suis arrêté simplement sur cet éditeur PDF là, qui est vraiment en tout cas super intéressant.
Moi, ce que j'aimais bien alors chez Framaké, c'est que soit tu prenais le pack entier, soit tu pouvais prendre les applications les unes séparément des autres. Quoi. C'était possible d'avoir les.
Bah donc c'est peut-être possible. C'est peut-être possible que voilà. En fait, voilà, ouais, non, cet éditeur PDF en tout cas est vraiment intéressant. En tout cas, on a l'OCR aussi, j'avais oublié sur l'éditeur PDF, on a aussi une reconnaissance OCR si on écrit à la main. Voilà, en fait c'est même un logiciel qui s'appelle PDF Exchange Editor, tu vois, et quand tu le trouves sur Internet, on n'a pas toutes ces fonctions-là. Donc, c'est assez, je ne sais pas trop comment s'est développé en tout cas cette Framaschool, mais en tout cas, bravo à eux en tout cas. Et ce site-là, je vous le conseille, adaptation pédagogique pour les élèves, c'est une mine hein, quand vous cherchez des outils, etc., des trucs et astuces, des ressources en tout cas sur les élèves un petit peu à besoins particuliers, type 10 et compagnie.
D'accord, ok.
Super.
Outils, qu'est-ce que... Seb, vas-y.
Alors, moi, qu'est-ce que je vous ai mis? Ah oui, oh là là. Alors, juste avant, je vais me faire un petit aparté que je n'avais pas prévu. C'est sur les clés USB, justement, un petit truc un peu drôle. C'est que récemment, j'ai acheté toute une série de clés USB pour pouvoir bosser plus facilement sur mes ordis de classe, parce qu'ils peinent un peu avec la connexion Internet. Et pour récupérer les documents, je me suis dit, bon, je vais faire bosser directement sur les clés USB. Et donc là, je commençais à chercher un logiciel pour gérer une flotte de clés USB. Et le truc drôle, c'est que le premier article que j'ai trouvé, c'était sur le site eTeachers.fr, ce qui parlait d'un ancien logiciel pour faire ça par rapport au... Parce que je vais aussi le regarder du coup pour les baladeurs numériques, parce que dans l'idée, ça s'en rapprochait. Donc c'était mignon de retomber sur vous, les gars.
Oh, c'est beau.
Alors, après le moment nostalgique, le moment hyper nouveau, je vais vous parler de CHAP. Alors, CHAP, je retrouve ce que voilà. C'est une messagerie instantanée qui a comme particularité d'être développée par notre employeur. Alors, pas l'employeur directement, l'éducation nationale, mais le niveau au-dessus, c'est-à-dire le gouvernement. Ça se veut une messagerie sécurisée destinée non seulement aux membres des gouvernements, mais aussi aux administrations. Alors, bon, jusque-là, ça ne nous intéresse pas des masses, sauf que, en fait, on y a accès. C'est-à-dire que pour ouvrir un compte là-dessus, il faut une adresse officielle, c'est professionnel, on va dire, et que l'adresse de l'éducation nationale, notre adresse en AC quelque chose, elle peut servir à ouvrir un compte là-dessus. Alors, deux choses tout de suite, parce que si vous faites une recherche Internet, ce sur quoi vous allez tomber, c'est que le lancement a été raté, puisque les premiers articles qu'on trouve là-dessus après le lancement, ça devait être fait en 2019, on est en 2019, ça tombe bien. Le premier lancement, il y a eu une faille de sécurité pour une messagerie sécurisée, c'est un peu ballot. Enfin bon, passons. Moi, ce que j'aimais bien là-dedans, c'est que c'était une messagerie pour nous, hein, pour éviter, je ne sais pas moi, pour parler d'élèves ou de dossiers un peu particuliers, c'est plus sympa de passer par un truc qui est prévu pour ça que passer par WhatsApp ou je ne sais quelle autre application qui, à la base, n'est pas du tout fait pour...
Oui, c'est une messagerie instantanée. Voilà. Hein. Tu as des messageries, c'est vrai que...
Qui n'est pas fait pour des communications professionnelles, on va dire. Voilà. Donc, à part ceci, le deuxième aspect où il faut faire un peu gaffe, c'est que ça dépend des académies. Je sais que moi, je n'ai pas eu trop de problèmes à partir du moment où je suis passé par le serveur, je dirais, ordinateur. Par la version ordinateur, parce que sur la version application, ça buguait pour la création du compte. Et une fois que je suis passé par là, par le truc, ça a été comme sur des roulettes. Ou presque, voilà. Hein, c'était pas non plus très compliqué. Donc voilà.
Tu ne rentres pas ton adresse académique. Tu utilises ton adresse académique, en fait, c'est ça ?
Exactement. Alors maintenant, il faut attendre un peu parce que forcément, déjà que c'est tout nouveau, il n'y a pas grand monde. Mais en plus, comme l'éducation nationale n'est pas forcément le premier service concerné par ça, il y a encore moins de monde. Donc voilà, une messagerie sans monde, pour l'instant, ça ne sert pas grand-chose. Il reste qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire autour, s'ils vont faire un peu de pub, s'ils vont essayer de pousser.
Non, c'est une bonne chose, mais... On peut créer des groupes, etc., de travail et tout.
Logiquement, on peut créer des groupes, il y a des listes, il y a tout ce que tu trouves sur une messagerie, mais on pourrait parler d'un autre cas. Tout ce truc-là, ça dépend du nombre d'utilisateurs qui va finalement se connecter là-dessus. Voilà, mais ça peut être sympa si on arrive à convaincre des gens de... Bon, après, il faut voir la fiabilité et tout ça, c'est tout. Nouveau dont je vous parle.
Donc, non, mais quand tu travailles en équipe, etc., on cherche des fois des moyens de communiquer, quand on est au moins quelque chose de sécurisé, etc. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Voilà.
Mmh. Ah, mais moi, je suis pour. À un moment, tu ne peux pas non plus taper sur toutes les initiatives.
Non, mais ça développe à fond en ce moment. Hein, donc, en tout cas, du côté éducation nationale et gouvernement, hein, je trouve que c'est au pas du numérique. Hein. J'aurais peut-être pu parler, ils ont fait un système de... je ne sais pas si c'est sur les écoles ou quoi, mais de financement participatif spécial, pas éducation nationale, mais je ne sais pas si c'est gouvernement, etc. aussi, ils ont fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Non, ça me dit rien.
Non,
ça me dit rien, ça.
Bon, là, je ne sais plus le nom, mais je vous retrouverai ça.
D'accord.
On enchaîne. C'est qui après ? C'est moi ?
C'est moi.
Je fais. Ça va être assez rapide. C'est un peu de programmation. En ce moment, je suis un peu là-dedans. Je vais parler d'EduBlock. EDU, comme EBlock, BLO, CKS. Qu'est-ce que c'est ? C'est un énième éditeur de code. Mais l'intérêt qu'il a, c'est qu'il va pouvoir déjà gérer pas mal de comment ça s'appelle, on est plus sur l'objet connecté, en tout cas, sur l'Internet des objets. Donc, on va pouvoir gérer le microbit qu'on vous a parlé souvent. Il va pouvoir gérer le Raspberry Pi aussi, qui si une petite carte de programmation un peu plus évoluée. Circuit Python, que je connais un peu moins, ou le Python, etc. Donc, vous voyez bien que la différence, c'est qu'on va pouvoir et programmer en bloc et programmer en Python avec EduBlock. Le Python, comme vous le savez, ça a été décidé qu'au lycée, ce serait du Python. En tout cas, bloc Python, hein, bloc qui est plutôt primaire collège, peut se faire en douceur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir programmer en bloc et on va voir l'équivalent, en tout cas, en Python d'un côté. Ça peut être en tout cas une solution de début d'année de seconde, on va mettre montrer un cœur par exemple sur le microbit en bloc, et ben on va avoir l'équivalent en Python de l'autre côté et vice versa. Donc voilà, ça a le mérite d'exister. C'est pour l'instant en bêta et en anglais pour l'instant. Donc, c'est pas parfait non plus, mais c'est une bonne initiative. C'est vrai qu'on cherchait un petit peu cette équivalence bloc Python. Ça peut être une des premières. En tout cas, je sais que beaucoup de collègues de lycée sont un peu frileux d'attaquer directement en Python. Ça peut être une première approche, en tout cas intéressante, un langage un peu plus évolué que le bloc. Voilà, et du bloc.
D'accord.
.org. Alors
j'en profite et je prends ta suite. Je continue sur la programmation. La société Edison qui produit des robots assez, assez discount, on va dire assez peu cher, avait, il n'y a pas si longtemps que ça, s'était mis à faire un langage de programmation justement avec l'idée des blocs. Et là, la petite nouveauté, c'est que dans leur interface de programmation, ce qu'ils proposent enfin, c'est d'enregistrer en local, puisque jusqu'à maintenant, les enregistrements se faisaient dans le nuage, à distance, en ligne. Et là, maintenant, ce qu'ils proposent enfin, c'est d'enregistrer en local. Alors, je ne sais pas si c'est pour économiser sur les services en ligne ou simplement pour se mettre en accord avec un truc que demandaient les utilisateurs. Et c'est pas plus mal. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent une petite application qui se charge en local aussi et qui n'ait plus besoin de connexion. Parce que c'est... Comment dirais-je ? On n'a pas tous de bonnes connexions dans nos établissements. Edison, si tu m'entends, if you listen to me. Voilà, ça serait pas mal.
J'ai retrouvé, tiens, ce que je disais, le financement participatif.
Ça s'appelle la trousse à preuves. De flash forward là depuis tout à l'heure.
Ouais, mais je viens d'y penser maintenant. La trousse à projet, voilà. Donc, la trousse à projet, c'est une plateforme numérique au service de projets éducatifs et pédagogiques, bénéficiant aux élèves scolarisés de la maternelle au lycée. C'est l'initiative de l'Office central de la coopération à l'école, au CCE, du réseau Canopé, du Crédit coopératif, du Fonds numérique pour l'école et du ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement. Donc voilà, on peut soutenir des projets enseignants, la trousse à projet, pourquoi pas. Voilà, j'ai un collègue moi qui a lancé un projet là-dessus, donc voilà, pourquoi pas, on va se sécuriser. Tu vois, si tu as besoin de petits robots, Seb, peut-être dans ta classe, lance un projet, hein ?
Écoute, si tu savais ce que j'ai en tête, parce que moi j'ai fait une formation là-dessus il n'y a pas longtemps, ils m'ont montré des trucs, je me fais, ah oui, mais ça c'est bien ça. Ah oui, ça coûte ça. Ah oui, bon, d'accord. On va attendre un peu alors.
Et voilà, un trousse à projet. Hein,
d'accord.
Je ne sais pas ce que vous en pensez d'un outil comme ça, mais bon. Après, ok, il y en a qui croisent les mains, voilà, qui se gratte la tête.
Non, je ne me gratte pas la tête, monsieur. Je me tiens la tête. Hein, c'est la fin de soirée, la fin de journée, la fin du mois. Alors, stop. Hein. Après, c'est toujours l'utilisation. Je sais pas dans quelle mesure tu communiques là-dessus, dans quelle mesure comment tu gères les fonds qui peuvent venir là-dessus. C'est y a tout un questionnement là qui me vient.
Ouais, il faudrait creuser un peu plus là-dessus. Hein.
En tout cas, ça a le mérite d'exister. Ouais. Et c'est quand même pas mal pour. Voilà.
Mm-hmm. Voilà, en tout cas. Des bonnes initiatives, en tout cas. Truc et astuce, messieurs ?
Vas-y, ça.
Truc et astuce. Allez, encore une fois, je vais vous parler au sujet de Book Creator.
Tu prends des pourcentages dessus ?
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Ouais, je suis Book Creator expert. Les mecs me payent pour en parler à chaque émission. Si vous saviez, je creuse la piscine là en ce moment.
Ah ouais ?
Alors, plus sérieusement, Nice, en fait, ça revient sur un des projets de l'année. J'ai fait un bouquin façon un peu le livre dont vous êtes le héros, mais ça s'est un peu réduit ensuite. Dans l'idée, c'était ça. En fait, tu appuyais sur les réponses et ça t'amenait à une page différente selon la réponse que tu avais choisie. Alors, j'y suis arrivé à la fin. Et donc, j'avais créé tout le corpus de texte et il ne me restait plus qu'à le mettre en page sous Book Creator parce que voilà, on était là-dessus cette année. Et j'étais convaincu qu'on pouvait faire des liens hypertextes dans Book Creator. Jusqu'au moment où j'ai voulu commencer à les faire, je ne trouvais plus la manière dont on pouvait faire des liens hypertextes. Alors, quand tout ton travail est fondé là-dessus et que tu étais parti un petit peu là-dessus, voilà, j'ai fait un peu une bévue de ma part, hein, de ne pas avoir vérifié avant. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et voilà, on va dire que j'aime bien Book Creator parce que c'est très simple d'accès. Mais alors, parfois, les fonctionnalités, il faut savoir où elles sont. Si vous mettez du texte un peu n'importe où, sans faire un cadre de texte, ça ne fonctionne pas. Si vous faites un texte, voilà, dans Book Creator, vous allez ouvrir un cadre à part, enfin, un éditeur de texte un petit peu à part, et dans cet éditeur, si vous sélectionnez le texte, à ce moment-là, vous avez un menu secondaire qui apparaît, et là, oui, là, vous pouvez avoir accès à insérer un lien. Vous l'aurez nulle part ailleurs. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs. J'ai cherché, j'ai essayé des textes que j'avais mis d'une autre façon, etc. Ça n'a pas fonctionné. Il fallait vraiment être dans le menu de l'éditeur de texte. Et là, vous avez inséré un lien. Et c'est pas mal parce que soit vous pouvez insérer un lien Internet, voilà, qui vous emmène dans votre navigateur habituel, et voilà. Ou alors, vous pouvez insérer un lien de page, et là, vous pouvez passer à une autre page du livre, et quand vous faites un genre de truc où vous devez passer de la page 3 à 6, repartir à la 2 et revenir à la 10, eh bien, c'est pas mal. Donc, si par hasard, vous êtes comme moi et vous avez cherché ça, ben, c'était dans tout simplement dans l'éditeur de texte et pas ailleurs. Voilà. Ne me dites pas merci, c'est gratuit.
Bravo.
Ouais, non, mais...
Voilà. Merci Allez. Pour cette belle présentation.
Ouais, on le critique, mais c'est le seul qui met des trucs et astuces quand même.
Hein. Ouais, en fait, c'est le seul qui bosse quoi. C'est
ah, la vérité éclate enfin.
Et... Mais bien évidemment, bon alors... allez.
Alors, l'innovation, expérimentation.
Bien, je vais vous parler. En plus, voilà, pour la petite blague, c'est que je suis arrivé au début de l'émission, j'avais rien, et en fait, sans déconner, les gars, ce que j'ai écrit la dernière fois, je me suis dit, faut absolument en parler dans les teachers, et j'avais oublié, et en fait, ça m'est revenu maintenant, tant mieux. Voilà, il se trouve que vous n'êtes pas censé ignorer que les élèves qui sont entrés en seconde cette année vont être les premiers à expérimenter la nouvelle version du bac, donc pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, pour l'année scolaire 2020-2021, avec toutes les modifications que ça comporte, on connaît les remous, etc., etc. En ce qui concerne ma discipline, à savoir les langues vivantes, à partir de l'année prochaine, donc, les premiers élèves qui rentrent en première vont pouvoir choisir un enseignement de spécialité qu'on appelle LLCE, donc langue, littérature et civilisation étrangère. Donc, c'est un parcours qui est vraiment ambitieux, hein, qui se veut vraiment ambitieux, j'ai pas d'autres mots, hein, assez haut de gamme. Avec, voilà, donc, c'est quand même les élèves qui ont choisi donc leur langue vivante et qui choisissent cette option en plus. Hein, donc, c'est quand même déjà des élèves qui, a priori, auront envie de travailler. Et un programme ambitieux, je le disais, qui pour la terminale ressemble, va certes, il n'y a pas encore les programmes, il n'y a que ceux de première heure qui sont sortis, mais en tout cas avec l'étude d'une œuvre complète en langue étrangère, et puis il se dit que même pour la terminale, ça sera bien sûr la suite avec quelque chose qui serait presque équivalent à des premières années d'études de fac de langue, ou en tout cas dans cette idée, donc vraiment ambitieux. Sauf que, comme tout parcours ambitieux, puisque j'ai insisté là-dessus, on peut estimer qu'il y a quand même moins d'élèves qui les choisiront. Donc, on imagine déjà dans des classes anglaises ce que ça peut donner. Mais alors, quand on parle des langues un peu moins choisies, des langues 2, puisqu'ils peuvent bien sûr les choisir en langue 2, comme l'allemand, l'espagnol ou l'italien, dans des bahuts, dans des établissements qui ne sont pas forcément très grands, et ben on va se retrouver avec des classes qui sont assez petites. Et étant donné, comme vous le savez aussi, chers auditeurs, je pense que tout le monde est au courant, que c'est souvent, quand les inspections académiques donnent les moyens horaires pour travailler, pour fonctionner, il y a maintenant des choix à faire. Ce sont des établissements qui doivent effectuer ces choix, ce qui donne souvent l'occasion de se taper sur la gueule entre collègues. Voilà. Ce qui fait que finalement, si on réfléchit en termes d'égalité d'accès aux services publics et d'égalité de proposition hein, de ces filières, c'est de toute façon un des gros problèmes de cette réforme du bac, c'est-à-dire qu'on veut proposer un maximum de parcours individualisés, ce qui est pas mal sur le papier, on ne va pas dire le contraire, hein, Jeff, tu me diras si je me trompe,
oui, sur
mais
le papier,
qui malheureusement, dans les faits, sont beaucoup plus compliqués, puisque les établissements n'ont pas les moyens financiers, matériels, humains pour organiser ces parcours. Et là, je sors un peu de mon devoir de réserve, je parle en tant que citoyen, je trouve que finalement, on va se retrouver avec des parcours qui ressemblent quand même fortement aux parcours scientifiques, littéraires, économiques qu'on pouvait connaître. Mais bon, je ferme la parenthèse. Pour revenir à ces enseignements de spécialité, il y a une réflexion aujourd'hui qui est menée pour ne pas forcément priver les élèves qui auraient envie de faire ces enseignements de spécialité en langue étrangère, de pouvoir les faire, même s'ils ont dans un établissement qui ne le propose pas. Parce que vous pouvez bien imaginer qu'en ce qui concerne l'italien, par exemple, si on se retrouve avec 4 élèves ou 5 élèves qui demandent l'enseignement de spécialité, le chef d'établissement est quelque part à juste titre, parce qu'on peut imaginer aussi que si le chef disait oui, on va ouvrir des moyens pour une section de 4 élèves, alors que d'autres surbondés n'auraient pas plus de moyens, on peut aussi se poser la question. En tout cas, pour essayer de pallier ce problème, l'inspection de langue vivante de mon académie, et notamment mon inspectrice chargée de l'italien, inspectrice italien, Madame Ninet, pour ne pas la citer, qui est sur plusieurs académies, a tenté de lancer une expérimentation qui viserait à enseigner en fait cette spécialité en italien à distance. Voilà. Donc c'est plutôt très stimulant. On s'est retrouvé l'autre jour à la DAN avec notre DAN, avec des personnes chargées de mission. En ce qui concerne l'enseignement à distance, moi en tant qu'interlocuteur académique et prof de langue, et puis bien sûr à l'inverse des profs de spécialité qui, eux, ne n'ont pas beaucoup de recul sur l'hybridation ou l'enseignement distanciel. Donc, tout un tas de questions se posent, en fait, hein, sur bah, comment rendre ces contenus attractifs, surtout en langue vivante. On n'est quand même pas dans des matières scientifiques où je vais faire hurler les profs de sciences, mais où à la limite, des quiz peuvent suffire, ou voilà, ou, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, où il y a, voilà, nous, en anglais, on peut pas avoir de réponse vraie ou faux. Je veux dire, si c'est un texte qu'il faut écrire, ça peut pas être automatisé, vous le comprenez bien par rapport à, ah, je sais, les profs de maths vont me dire que c'est pas vrai, qu'il y a de la rédaction, tout ça, bien évidemment, j'y connais rien à votre matière, je m'en fous, c'est pas pour ça que je parle. Ce que je voulais dire, c'est que quoi qu'il arrive, c'est effectivement quand même compliqué. Et surtout, au fil est venu quand une pratique auquel moi j'avais pas du tout pensé, que j'imaginais même pas, mais c'est peut-être mon côté pro numérique. En fait, avec des collègues qui refusent un peu cette démarche en se disant que ça va finir par prendre leur job, quoi. Clairement, c'est-à-dire que si on commence à mettre des enseignements à distance, où est-ce qu'on s'arrête ? Parce qu'après, on va dire à 7 personnes, on n'ouvre pas, 10 personnes, on n'ouvre pas, 15 personnes, on n'ouvre pas, à quel moment on ouvre une classe, etc. etc. Bon, j'imagine bien qu'il y a un côté un peu catastrophique là-dedans, ou voilà, on est d'accord, parce que moi, je ne pensais pas du tout ça, mais en y réfléchissant un peu quand même, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, c'est un petit peu le sujet polémique de se dire, est-ce que finalement, à vouloir absolument hybrider, voire là, c'est plus qu'une hybridation, hein, puisqu'il s'agit vraiment d'un parcours tout à distance, avec tout reste à définir, est-ce qu'il y aura des professeurs qui prendront des rendez-vous quand même avec les étudiants en ligne, est-ce que ça va regrouper, je ne sais pas moi, 4 classes de 4 lycées perdus qui représentent les 4 classes de 4 élèves qui ont pris l'option, voilà, donc il y a quand même bien un humain, je veux dire, ça ne peut pas être tout automatisé non plus, moi c'est tout de suite ce que j'ai avancé. Donc, c'est à la fois, je trouve, très intéressant parce que ça y est, on passe quand même, voilà, sachant qu'il y a déjà une collègue là, qui était présente à cette réunion qui le fait déjà, en fait, hein, elle le fait parce que, voilà, à un moment, elle ne pouvait pas tout faire dans l'établissement, c'était la seule, ça se montait dessus au niveau des emplois du temps, donc elle a dit, ben, ok, pour, alors, c'était pas cette spécialité-là parce qu'elle n'existait pas encore, c'était d'autres, voilà, du haut niveau italien, on va dire, des gens qui avaient choisi ça en option et qui en voulaient, voilà, ben, elle a dit, je vais vous proposer des cours, bon, c'était un Moodle, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et bah, ça a très bien fonctionné, en fait. Hein, voilà. Donc, assez intéressant. Est-ce que ça veut dire que finalement, toutes les options qu'on pourrait appeler minoritaires ou en tout cas moins demandées pourraient être proposées pour ces dispositifs? Mais dans quelle mesure aussi, une fois que le dispositif que le cours est créé, est-ce qu'effectivement, on ne peut pas assez justement ou logiquement penser que le professeur ne sera plus nécessaire? Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
En tout cas, c'est une réflexion que j'ai entendue plusieurs fois là, dernièrement en formation. Moi, j'ai fait les formations sciences numériques et techno, là, tu sais, l'enseignement de seconde, où on a parlé justement du cadre européen de numérique, tu sais, par rapport à PIX. Là. Et plusieurs fois, ils m'ont dit, oh, ben, ça sent ce que vous voulez, c'est remplacer les profs et mettre du virtuel. C'est toujours un petit peu un peu réducteur quand même et provocateur quand même, mais l'hybridation, ouais, enfin on va y venir quoi qu'il arrive, tu as raison, sur des solutions comme ça, quand on veut faire tous les parcours qui existent, toutes les formules de parcours qui existent, c'est, humainement c'est pas possible, tu l'as bien dit. Et puis d'ailleurs, pour construire ces cours, c'est bien des collègues profs quand même qui sont derrière aussi.
Et hein, sauf que ton cours, tu peux le construire une fois qu'il est entre guillemets validé, même si à la limite, oui, tu as besoin d'un prof qui à un moment ou un autre intervient, tu as moins besoin. C'est évident que nous, là, cette année, on va être...
Il y a 10 personnes pour faire à chaque, je ne sais pas combien de lycéens, oui. Mmh. Okay. Mmh. Mais bon.
Donc...
Mais bon, c'est toujours... je pense que le présentiel n'est pas mort. Voilà, je veux dire, c'est pas possible de tout faire en 100% en ligne. Voilà. On le voit, nous, quand on essaye de faire des formations un peu hybrides, on voit bien qu'il faut quand même ce côté,
ouais,
ce alors, côté présentiel. Moi, j'y crois pas au 100%.
Il y a une différence.
Voilà, en fait, Jeff. La preuve des MOOC.
Oui, mais
les MOOC, ça, c'était, on disait les MOOC vont remplacer tout. On voit bien que ça prend. Excuse-moi.
Je t'ai perdu, Jeff. C'est lui ou moi qui le connaît.
On le perd un petit peu là. C'était Jeff.
Bon, vas-y.
Tu nous entends, Jeff?
Les MOOC devaient remplacer tout.
T'en étais à dire que les MOOC devaient remplacer tout, ouais.
Voilà, et que les MOOC, finalement, sont tombés un peu, voilà, ça n'a pas autant marché que ça, quoi, voilà.
Alors, à la différence près quand même que pour tout ce qui est MOOC, même s'il y a des aficionados du numérique ou dans nos formations continues, des gens qui sont pro-numérique, quand on fait de la formation continue un peu plus classique, on est aussi face à des gens qui ne sont pas du tout numériques et qui, par définition, ne vont pas vers l'hybridation. Face aujourd'hui aux collègues, aux étudiants qu'on a face à nous, en tout cas, je veux dire, sur cette génération-là notamment, qui va passer le premier bac 2021, c'est quand même des gens qui sont quand même beaucoup plus proches du numérique que certains collègues. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont tout faire nickel, mais je veux dire, à mon avis, ils auront moins de difficultés à aller sur cette modalité-là. Ils vont se poser moins de questions, en tout cas, que certains de nos collègues. Donc, moi, je pense qu'il peut y avoir un intérêt pour ça. Après, moi, ce qui me fait plus peur, au-delà en fait, de se faire remplacer, si tu veux, parce que bon, j'y crois pas non plus, surtout dans ma matière en langue vivante, c'est absolument inimaginable. Donc, pour un contenu très spécial comme ça, où en fait, on n'est même pas dans les langues vivantes, on est dans la littérature étrangère, c'est pas pareil, hein. Je peux comprendre que ça fonctionne, ça puisse fonctionner, et après, ça ne fonctionnera pas sur le reste. Mais ce qui me fait plutôt peur, c'est l'appauvrissement en fait, du contenu. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, l'hybridation, c'est bien si c'est justement hybride. Quand c'est tout du distanciel, on n'arrive pas à faire la même qualité, ce n'est pas possible. Donc moi, j'ai plus peur en fait, de l'appauvrissement du contenu parce qu'on va vouloir tout adapter pour que ça passe de manière numérique. Et en fait, on va se retrouver à faire des activités qu'on ne fera absolument pas en classe parce que... Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, le numérique... J'entendais aujourd'hui à Inter un mec qui était invité, là, je ne sais plus, pour la robotique et qui a fait un film, je crois, j'ai repris en cours d'autre. Mais je me suis juste arrivé sur une phrase, il a dit, de toute façon, aujourd'hui, même les assistants, tout ce qui existe, ça reste des machines qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas de sentiments. Et moi, je suis quand même dans une matière, mais toutes les matières, de toute façon, où on a besoin de ça, clairement, ça ne fait pas tout. Donc finalement, on a beau avoir des contenus automatisés, on a beau avoir de l'aide qui sera apportée parce que la réalité virtuelle fait qu'en scannant mon document, j'aurai accès à telle vidéo d'aide, j'aurai tel accès à tel vocabulaire en plus, c'est super, c'est génial. Ça suffira jamais par rapport à l'interaction humaine réelle qui, là je parle de ce que je connais en littérature, fera que je pourra avoir une interprétation d'un passage, réfléchir à la visée de l'auteur. Donc voilà.
Là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Hein. Non, mais dans n'importe quelle discipline, là tu...
Oui, oui, tout à voilà, fait. Tout n'importe à quelle fait, discipline,
on a besoin de l'humain, de l'aide, voilà, on s'adapte par rapport aux gamins, voilà.
Voilà. En fait, moi, ce que, si vous me permettez, les gars, ce qui m'inquiète un peu, c'est pas tant l'hybridation, etc. C'est même pas tant l'appauvrissement que ça pourrait donner. C'est de partir de l'idée, c'est une réponse à on n'a pas assez, ils sont quatre dans cet établissement à vouloir faire cette truc-là, et de finir par arriver. J'ai perdu mon fil, forcément. Donc, de partir de là et d'arriver à... De toute façon, on n'a pas le choix et puis on fera comme ça parce qu'on n'a pas les sous pour et on ne les aura pas. Voilà. Oui, comme le côté économique, en ce moment, on ne va pas se leurrer, permet d'arriver à des solutions totalement ubuesques dans tous les domaines de l'éducation. Je me dis parfois, le pire, c'est pas... On va avoir des collègues qui vont faire des super parcours, on va avoir des parcours vraiment bien, on va avoir des gamins qui vont se dire, bon, ben moi, je préfère quand même quand il y a le prof qui est directement en face, parce que le distanciel absolu, ben, c'est gentil un moment, mais moi, j'aime bien discuter, c'est ce que vous disiez. À un moment, les relations humaines, c'est aussi ça le principe de nos établissements d'enseignement. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est ceux qui, à un moment, sont plus bureaucrates qu'autre chose et vont se dire, ouais, mais bon, on s'en fout un peu, quoi. À un moment, il faut... C'est avec ça on peut dégager tant de KF. Bon, on va dégager tant de KF en dégageant tant de profs, quoi. Voilà. C'est plus cette dérive là qui m'inquiète plutôt qu'autre chose.
C'est pas forcément ça, c'est un peu lié à ça, mais c'est plus effectivement c'est l'éternel débat, quoi. Je suis peut-être vraiment naïf et tout ça et je le suis certainement, mais je crois que c'est pas tellement dégager des profs, c'est plutôt de se dire dans un moment où il y a une logique économique, on va pas se mentir parce que ça reste quand même de l'argent public et ça reste, c'est pas inépuisable. Est-ce qu'on peut décemment financer une option pour 4 personnes, 5 personnes quand à l'inverse d'autres options sont surchoisies et où il faudrait faire des groupes, quoi. Et là, d'un point de vue pur d'un chef d'établissement qui doit faire ce choix, moi je peux comprendre que le chef il dise si j'ai 2 classes de SI ou je dis n'importe quoi, ou 2 classes où j'ai 40 élèves, je suis obligé de faire 2 groupes, je peux pas à côté consacrer les mêmes moyens humains, le même coût enseignant, on va parler de coût enseignant, hein,
pour un seul groupe. Je l'entends complètement. Alors oui, tu pourrais aussi me répondre maintenant finalement que cette question ne devrait même pas se poser finalement. Avant ça, on devrait donner les moyens que tout le monde fasse tout. Mais ça c'est pas, ça me paraît difficile aussi quoi.
C'est l'autonomie des établissements. On retrouve la même chose nous dans le collège avec le latin, avec la seconde langue.
Voilà, ouais, complètement.
Voilà, on est un peu dans le même esprit. Mais cette réforme est un peu, voilà, là-dessus, on s'en doutait. Il y a quand même 12 enseignements de spécialité. Tu te rends compte le nombre de choix qu'il peut avoir.
C'est énorme. C'est absolument énorme.
Comme tu disais, sur le papier, c'est vraiment formidable. Moi,
c'est aussi un peu qui m'emmerde. Si tu veux, pour moi, le fait de proposer clairement 12 enseignements de spécialité, sachant pertinemment avant de les proposer que tous les établissements n'auraient pas les moyens de les proposer de manière effective et de faire en sorte que les élèves y participent. Pour moi, là, clairement, c'était un peu le côté populo, quoi. C'était en train de dire, regardez, on vous fait une réforme où clairement, ça y est, on va pouvoir aller dans des options, avoir des parcours beaucoup plus fléchés, beaucoup plus précis. Ça, c'est l'effet d'annonce. Et puis derrière, en fait, voilà. Je veux dire, ils sont pas aperçus après avoir lancé la loi. Dans les faits, les établissements pourraient pas.
Mais ils sont bien inspirés du côté anglo-saxon, non ? C'est pas ça, non ?
Oui, mais en fait, les anglo-saxons, ils ont moins de parcours, en fait. Tu vois, ils ont l'impression qu'ils sont inspirés de ce côté, mais ils sont allés plus dans le détail, quoi. C'est juste que, en fait, les anglo-saxons, dans leur A-level, donc l'équivalent du bac, ils choisissent une majeure, en gros, et une mineure, si tu veux. Mais c'est pas autant. Par rapport à un truc tout con, nous, quand on était en série scientifique, à l'époque, quelqu'un voulait faire une troisième langue vivante, en option, ce n'était pas possible. Parce qu'on disait, en série scientifique, il faudra faire une option scientifique. Tu as le droit à une deuxième langue vivante, bien sûr, mais voilà. Et pourquoi, finalement ? Alors que les anglo-saxons pouvaient tout à fait faire en majeur maths et continuer à faire de langue vivante à côté. Voilà. C'était plus ça, mais ce n'était pas non plus aussi large, quoi. Là, c'est vraiment impressionnant, en fait.
Oui, c'est puzzle.
Le menu est sur le papier. Et
dans le choix, et puis les combinaisons, surtout.
Bien sûr.
Les combinaisons,
c'est énorme. Exactement. Mais on comprend bien que tous les bahuts ne pourront pas le faire et ça va forcément créer de la différence entre les établissements.
Oui, alors on a même vu le cas où certaines spécialités vont se faire dans un autre établissement. J'ai lu aussi. J'ai lu aussi ce principe-là. Mais je pense que. C'est les premières années, je pense que ça va, voilà, ça va être dur les premières années. Je pense que voilà, les élèves qui sont dedans, ils vont un peu payer les pots cassés au début, et puis comme toutes les réformes, je pense, mais bon.
Certainement.
Bon courage à eux.
Allez, on avance.
Allez, qu'est-ce que tu fais en ce moment, Seb, toi ?
Moi, je fais du montage de la poésie sur Twitter. Voilà.
Oula.
On a parlé tout à l'heure du groupe TADAF, toutes les initiatives qui se basent sur Twitter pour de la création dans les classes. Et moi, cette année, je me suis inscrit au dispositif Tweet en Rime. Et là, en ce moment, je fais les montages. J'étais en duo avec une école de vers la Bretagne, de Quatrivant. Marie-Pierre, si tu nous entends. Et on a créé 5 poèmes en se basant sur des estampes d'Okusai. Et là, en ce moment, ensuite on les a augmentés, c'est-à-dire que moi, de mon côté, j'ai fait de l'animation image par image avec mes élèves sur 2-3 poèmes. Et là, je fais le montage, je cale les morceaux de son, etc. Donc voilà, c'est bien. Bravo. Et si vous ne connaissez pas DaVinci Resolve pour faire les montages, gratuit, très puissant.
Sur PC ?
Sur PC. Je crois qu'il est aussi sur Mac. J'ai un doute, mais bon.
DaVinci Resolve. Ok. Je regarderai ça.
Et toi ?
Guillaume, tu fais quoi en ce moment ?
Eh ben, en ce moment, c'est moins numérique, mais ça s'inscrit quand même dedans. Je travaille pour inscrire mon établissement à une certification qui s'appelle la certification Euroschool, donc qui s'inscrit dans une dynamique européenne, comme son nom l'indique. Voilà, dans mon collège, depuis cette année, on a lancé l'équivalent d'une section internationale. Alors, elle n'est pas encore labellisée section internationale, c'est pour ça qu'on l'appelle autrement. On appelle ça un parcours international qui est en train d'être mis en place et en espérant qu'on puisse vraiment ouvrir une section internationale très bientôt avec vraiment des cours enseignés en langue étrangère. Pour l'instant, on a des collègues qui le font déjà. Hein. Ce sont les fameux collègues qui font ce qu'on appelle la DNL, la discipline non linguistique.
Mais on a le contenu sans en avoir vraiment le label tamponné. Et pour pouvoir devenir vraiment section internationale, on veut prétendre à une certification qu'on appelle le Euroscol. Donc Euroscol, en gros, c'est une norme de qualification qui nous demande un certain nombre d'engagements de qualité pour pouvoir répondre à cette certification autour de projets, bien évidemment, d'échange, de mobilité et de travail à l'international. Donc forcément quand même lié aussi avec le numérique, puisqu'on parle de plus en plus de mobilité virtuelle, en plus des mobilités physiques. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de eTwinning, qui est un projet européen qui est assez vieux maintenant, qui permet donc de chercher des partenaires européens pour des projets de correspondance, d'abord virtuels, mais qui peuvent déboucher sur maintenant des échanges qu'on appelle Erasmus+, qui s'appelait avant Comenius et qui sont maintenant intitulés Erasmus+, un petit peu comme le programme d'échange pour les étudiants. Voilà, donc sur des fonds européens et qui permettent d'envoyer des élèves en échange avec des professeurs sur des projets très précis. Donc, c'est, ma foi, super intéressant. Ça demande, par contre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail parce que c'est un cahier des charges qui est assez lourd, mais on peut le comprendre. Voilà, donc c'est fort intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui sont, pas d'élèves, pardon, d'établissements qui sont super intéressés pour ces projets-là, notamment souvent les nouveaux pays de l'Europe, les anciens pays du bloc soviétique, enfin, anciens pays, ça fait un certain temps qu'ils ne sont plus, mais qui sont entrés dans l'Europe le plus récemment et qui cherchent absolument des partenaires. Je pense bien sûr à la Bulgarie, je pense à la Turquie qui n'est même pas encore dans l'Europe telle qu'on la connaît, mais qui fait partie de cet échange-là, quand même, qui est à fond pour chercher des partenaires. Les Roumains sont énormément, parce qu'eux, ils ont, comment dire, dans ces échanges de partenariat, quand on va à ce qu'on appelle des séminaires de contact pour rencontrer des partenaires, on a souvent un peu l'impression que les Français, un peu les autres pays européens, mais surtout les Français sont européens, on va dire, classiques, enfin les premiers, font un peu leur côté riche, quoi. Ils cherchent, on va prendre le temps de réfléchir, alors que ces autres pays ont besoin de ces partenariats pour faire monter leurs écoles en gamme et pour justifier aussi, parce que toute l'éducation ne fonctionne pas de la même manière. Voilà, en tout cas, c'est super et c'est un sacré challenge. Voilà.
Très bien.
Et toi, Jeff ?
Moi, j'étais dans mon petit concours robotique de comme chaque fin d'année, qui finit bien le collège. En tout cas, c'est notre concours robotique intercollège. On était cette année 270 élèves. Ça commence à grossir de plus en plus. Ça commence un peu à me dépasser ce petit concours, mais c'est toujours ça finit bien, en tout cas l'année de collège pour les élèves. Donc toujours un concours robotique en lien avec les mathématiques et la techno. Voilà, pour la petite histoire, donc le concours s'appelle Gagacar. Vous cherchez ça sur Internet si vous êtes intéressé, vous trouverez le petit blog. Voilà, pour la petite histoire, en tout cas mes élèves un groupe d'élèves a perdu en demi-finale cette année. Donc, une quatrième place honorable, en tout cas, par rapport à ce qu'on a fait. Donc, c'est des petits robots style voiture autonome qui se déplacent dans un lieu, qui doivent venir récupérer quelqu'un dans un parking et l'amener dans un tel ou tel endroit. Donc, on est sur ce principe-là. Donc, conception de robots de A à Z et programmation, bien sûr, en lien avec les maths. Voilà, c'est mon petit truc de l'année. Une fois que mon concours robot, je t'avoue, la fin d'année est un peu plus cool. Une fois que c'est fini. Et nous, on fait quoi au mois d'août?
Je sais pas. Seb. Je crois qu'on va aller se perdre dans les Pyrénées. Je crois.
C'est ça.
C'est une idée comme ça. On va aller se baigner aussi dans les Pyrénées. On en profite.
Voilà. C'est vrai.
Donc, tout ça pour vous dire que fin août, on aura la joie, Jeff et moi, d'animer un des Explore Camp de Ludovia consacré à.
L'objet connecté, forcément.
Sur la carte Microbit, dont Jeff vous a parlé encore il y a quelques minutes. On va vous présenter un petit peu on vous présentera des projets depuis mes niveaux, cycle 2, cycle 3, jusqu'au niveau que le seigneur Jeff fait. On monte dans les hautes sphères, bien entendu.
Du lycée, jusqu'au lycée.
Voilà.
Voilà, donc on se retrouvera à Ludovia en tout cas.
C'est la grande classe. Moi, je suis vraiment désolé. Cette année, je ne pourrais pas être là encore.
Pour des bonnes raisons. Honteusement.
Je suis en train de faire du rock'n'roll avec mon groupe pendant une semaine de tournée. Donc, je ne vais pas me plaindre. C'est un très, très bon moment aussi. Mais je reconnais que le créneau n'est pas propice en ce qui me concerne. Mais j'essaierai de vous écouter. Voilà.
Ouais, il en dit plus. T'as vu, il tease parce qu'on a parlé juste d'Export Camp pour l'instant. Donc, on en parlera un peu plus tard, on parlera peut-être dans 15 jours de la suite des événements. Allez, on a fini un peu, on va parler d'autre chose. Hein,
parlons d'autre chose. Allez, je commence.
Vas-y.
Allez, vas-y. On va parler un peu de série, puisqu'on est tous un peu là-dessus. Voilà, je vais vous parler.
C'est série aujourd'hui, là.
Je vais vous parler, bien évidemment, de ce dont tout le monde parle en ce moment en termes de série, de la fameuse série Tchernobyl, puisqu'elle a battu, je crois, tous les records d'audience. Elle est même passée devant Game of Thrones, il me semble bien. Voilà. Donc, moi, je me méfie toujours un petit peu de ces effets d'annonce. Je l'ai regardé après avoir lu ça. Je me méfie toujours un petit peu aussi des séries docu, parce que j'ai eu parfois des mauvaises expériences. Mais en même temps, c'est HBO et je reconnais en toute honnêteté qu'il n'y a quand même pas beaucoup de séries produites par HBO qui sont de mauvaise qualité. Pour rappel, c'était quand même eux qui avaient fait The Wire, qui reste pour moi l'ultime série. Bon, j'ai regardé ça et je vais vous le dire tout de suite. Pour moi, c'est effectivement la meilleure série que j'ai eue.
C'est vrai ?
Vraiment, vraiment, ouais. sans aucun problème. Alors, il faut quand même nuancer le propos. On n'est pas sur de la fiction, hein, on est sur, on est sur de l'histoire. C'est pas documentaire, non, c'est pas film tel, mais c'est basé clairement là de faits réels. Et c'est plus que basé, c'est parce que tout le récit de la catastrophe et de ce qui s'est passé après, la plupart des épisodes sont basés sur absolument des faits réels, non pas à partir d'eux, hein, c'est différent. Ce qui, justement, fait, je pense, qu'on soit beaucoup plus touché et sensible. En tout cas, c'est mon cas. Parce que même si de très bonnes séries de fiction sont fortes justement pour jouer sur vos émotions, et même si vous savez que c'est pas vrai du tout, et même si vous savez tout ça, ça vous touche quand même. Là, il y a quand même quelque chose de dire, putain, c'est quand même arrivé à des mecs, quoi. Voilà, il y a quand même des scènes assez prenantes où les mecs savent clairement que pour aller... éviter une surcatastrophe, ils vont en plein milieu de la centrale qui a explosé, gavée de radiation. Voilà, c'est quand même arrivé à ces gens-là. Voilà. Après, en termes de réalisation, je trouve que c'est absolument parfait. Franchement, j'étais pas en Roumanie, en Ukraine à cette époque-là, mais je pense que si j'avais été, c'est l'ambiance, vraiment, c'est toute la production est parfaite en termes d'ambiance de l'époque, absolument. Le seul détail vraiment qui me gêne, c'est qu'ils ont été tellement près de la réalité, j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas choisi des acteurs ukrainiens, ce qui fait que là, les acteurs sont anglophones, voire même anglais, donc avec un accent anglais très marqué. Et quand au tout début, on est dans une telle atmosphère, les premières fois qu'on s'attend à entendre parler, je ne m'attendais pas à entendre de l'anglais. Et au bout d'un moment, ça me posait un peu problème. Ça m'a un peu gêné. Voilà, c'est un peu le seul truc qui m'a gêné. Bon, c'est un tout petit détail, hein, surtout que je pense que malheureusement, les gens le regardent en version française en plus. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Du coup, 5 épisodes, donc ça se regarde très bien, pas besoin de plus. Voilà, on comprend absolument l'horreur de cette situation et la folie des hommes et la volonté de cet ancien bloc de l'Est d'étouffer l'histoire au maximum. Hein. Je veux dire, nous, on fait partie de cette génération qui a quand même entendu parler du nuage. Enfin, Jeff, comme moi, tu te rappelles du fait que... Enfin, même toi, bien sûr, Seb, qui était arrêté à la frontière. Enfin, je veux dire, nous, on vit quand même, Jeff et moi, on vit quand même dans une région où, moi, quand j'ai grandi, on nous disait de ne pas ramasser des champignons dans le Pila, pour le coup, parce qu'on était là, parce qu'ils étaient radioactifs.
Tout à fait.
La catastrophe de Tchernobyl, je veux dire, c'est quand même... Voilà. Donc là, quand vous voyez cette série et qu'en gros, spoiler, j'allais utiliser le mot français qui est divulgâcher, voilà, sans divulgâcher quoi que ce soit. Ouais, c'est moche d'ailleurs. Hein. sans divulgâcher quoi que ce soit, la centrale pète, bien sûr. Le tout début de la série, en gros, ils passent leur temps à dire que tout va bien, qu'il n'y a rien du tout et que les radiations, c'est l'équivalent de 20 radios, quoi, tu vois, voilà. Donc, absolument, absolument, je ne dirais pas sublime, parce que malheureusement, ce n'est pas sublime, magnifiquement réalisé, traité d'une justesse folle et de. Vraiment, 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 vraiment,
J'osais pas y aller en me disant ça, c'est un peu plombant, c'est un peu rude, non?
Alors, ouais, moi j'aime bien ce genre, je vais pas mentir, hein, je suis touché par ces trucs, je veux dire, moi ça me dérange pas de regarder Holocaust et ça me dérange absolument pas, tu vois, voilà. Parce que justement je suis touché, parce que pour être touché encore plus, j'ai besoin aussi de voir des fois, tu vois, j'ai besoin d'être marqué visuellement. Je le reconnais, hein, il y a des gens
t'enchaînes pas les épisodes, quoi.
Les Ouais, mais c'est bah oui, c'est l'horreur en fait. En fait, c'est terrible à dire, hein, mais c'est. Bon, mais
c'est pour ça que j'hésite.
Mais je veux dire, même si c'est effrayant de voir ça et de, c'est, on ne peut que devant la série, devant la je vais le dire, hein, la beauté de la réalisation, parce qu'on peut vraiment, hein, la, en tout cas, comme c'est bien fait. Et elle s'est bien fait, et je veux dire, c'est pas putaclic, enfin c'est pas racoleur quoi. L'idée c'était pas de dire on va voir des corps irradiés, donc c'est ça qui fait que les gens vont cocher. Parce que non, justement, c'est plutôt pudique. Il y a quelques scènes forcément, mais ça reste quand même plutôt pudique. C'est juste que l'ambiance est absolument terrifiante. C'est en fait c'est pas ce qu'il y a avant la catastrophe. Hein. C'est vraiment la catastrophe, c'est le premier épisode, et surtout après. Et c'est bon, rien que d'en parler, c'est frissonnant. Donc à mon avis, ça vaut le coup. Je pense que de toute façon, si vous craignez au bout du premier épisode, vous direz ouais, non, c'est bon, je veux pas aller plus loin parce que ça va être horrible. Donc vous arrêtez là. Et si au bout du premier épisode, vous êtes happé quand même par le truc de se dire ben ouais, il faut le voir, faites-le. Ça vaut le coup. Voilà.
Ok, t'as pas été devant Seb, non?
Non, j'ai pas regardé. J'ai entendu de bonnes critiques de Tchernobyl, avec ce petit point là sur la langue, mais bon, après voilà, je préfère une version anglaise plutôt qu'une version il parle comme ça. Je tiendrai.
Ouais, je suis assez d'accord. En tout cas, surtout si c'était version française avec l'accent russe fait par Michel Leb, tu vois, ça c'est évident. Ça,
Michel Leb, la sortie. Ouais.
Non, mais tu vois, tu sais, les mecs des années 80 qui faisaient les accents, c'est insupportable quoi.
Oui. Les années 80, les accents, tout ça. Ben, d'ailleurs, ça me fait penser que ce dont je vais vous parler, c'est un mec qui a grandi dans les années 80, qui s'appelle Kian Kojandi, et qui avait fait une petite série très rapide il y a quelques années qui s'appelait Bref.
Oui. Ah, bien sûr. Alors, bien sûr.
Voilà, j'aime beaucoup Bref. Voilà, parce que ça me parle. En plus, il y a des épisodes. Quand tu as grandi dans les années 80, oh, on a perdu Guillaume. Ouais. Forcément. Ça te parle. Il faut savoir qu'il a fait un spectacle récemment qui s'appelle Pulsion. C'est sur toutes les pulsions qu'on peut ressentir, pulsion, vie, mort, sexe, etc. Tout ça. Spectacle très sympa et qu'il a mis en accès libre et intégral sur YouTube. Donc, je m'étais maté ça il n'y a pas longtemps. Je m'étais bien marré parce qu'il fait des références à Bref et il y a des trucs qui sont très très sympas parce que bon, forcément quand tu as eu ce gros succès, c'est ce à quoi on te renvoie sans arrêt. Il évite pas, il s'en sert pendant tout le spectacle et c'est bien sympa. Mais il y a plus sympa encore, c'est qu'en fait il y a une adaptation en bouquin qui a été faite par Boulet. Alors Boulet, moi je l'aime bien, c'est un auteur de BD qui est de la même génération que Kian, quoi. Donc ça donne un mélange assez sympa et l'adaptation elle est juste marrante. Je me suis repoilé aux mêmes blagues mais en version livre et ça c'était bon. Donc si vous avez l'occasion, jetez un coup d'œil à la série sur YouTube, c'est gratuit, ça va rien vous prendre à part un peu de temps et de bonnes rigolades. Il y a même la pulsion de mort est un moment drôle, il parle de la mort de son père et ben c'est drôle quand même. Il arrive à faire rire là-dessus, chapeau. Je ne sais pas si j'aurais eu l'idée de ce truc-là, mais bon, voilà, il est bon. Et la transcription en bouquin, ce n'est pas une BD, ce n'est pas juste un livre, juste un roman, c'est un mélange, on pourrait appeler ça un roman graphique, comme disent les Américains, mais voilà, c'est très sympa. Pulsion, je vous le conseille.
Ok, j'avais jamais entendu parler, tu vois.
Bah écoute, je suis tombé par hasard. Et toi?
Allez, moi, une série aussi, un peu marrante aussi, c'est sur Netflix, ça s'appelle Jack Whitehall Travels with My Father. Donc, Jack Whitehall voyage avec mon père. Jack Whitehall, alors moi, je connaissais pas, je sais pas si tu connaissais, c'est un comique anglais, en tout cas, qui est assez connu, en tout cas, en Angleterre. Un jeune de 30 ans, une trentaine d'années, et il décide de faire en tout cas un voyage initiatique avec son père. Donc son père, c'est plutôt un 75 ans, donc quelqu'un qui a eu tard son fils, et ils ont pas trop d'amour crochu. Jack Whitehall, il dit toujours qu'il a pas eu d'amour quand il était enfant. Et le but, c'est de faire découvrir un petit peu, de jouer, de passer du temps avec son père à travers le monde. Donc là, la saison 1 se passe en Asie, en tout cas, ils vont au Cambodge, ils vont au Vietnam, ils vont à Hong Kong, etc. Et on voit les péripéties un petit peu de ces deux énergumènes, avec un qui ont en fait deux humours voilà, qui ont vraiment des humours très proches, on voit bien qu'ils sont père et fils, mais et ils se balancent des... L'un essaie de faire découvrir un petit peu le côté un petit peu excentrique, le jeune de sa vie, l'autre qui est le papa qui est plutôt quelqu'un de très snob à l'anglaise, etc., costard cravate, machin, etc., qui essaie de faire découvrir la grande culture pour lui, qui est souvent basée sur la Seconde Guerre mondiale, la culture, tout ce qui est basé là-dessus. Donc on a...
Deux univers.
Complètement différents, et franchement, ils ont un humour vraiment... Moi, qui me fait vraiment rire dessus, sur leur péripétie, il y en a un qui trouve les pires guides qui existent pour visiter. L'autre, il veut pas manger dans un petit boui-boui, il faut toujours manger au grand hôtel avec le grand resto, etc. L'autre, il lui fait essayer de faire manger n'importe quoi. En fait, c'est vraiment très hilarant, j'adore. La saison 2, où c'est plutôt le père là, qui décide où aller, donc ils font toute l'Europe de l'Est. Donc l'Europe de l'Est, par exemple, ils sont. Qu'est-ce qu'il va voir? Le comment ça s'appelle? En Bavière pour aller voir la villa de vacances d'Hitler, par exemple. Ils vont aller voir, voilà, des choses comme ça. Donc voilà, Donc l'autre, il est fou, il va chercher un guide bavarois où ils vont faire du ski, aller faire des conneries, enfin, et boire de la bière. Enfin voilà, c'est quelqu'un, on a deux mondes, et c'est vraiment, vraiment très sympa. Moi, j'adore, je crois que c'est deux fois six épisodes, je crois qu'il y a une saison 3 qui est prévue, hein, c'est ce que j'ai lu. Vraiment hilarant, en tout cas, je vous la conseille sur Netflix.
Ok, tu vois, là, moi, aucune idée, j'étais complètement passé à côté.
Ouais, moi, je suis tombé par hasard dessus, hein, je t'avoue. Hein. Je connaissais pas du tout ce Jack Whitehall, mais a priori, c'est quelqu'un qui joue dans pas mal de sitcoms, en tout cas en Angleterre aussi, et qui a un spectacle, un one-man, en tout cas. Voilà. Et ben, on arrive à la fin, on aura perdu Guillaume, hein, qui ne revient pas, a priori. Hein, je sais pas ce qui lui arrive. Alors, pour nous retrouver un peu, ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait un moment qu'on n'a pas eu trop de commentaires. On disait, on a toujours. N'hésitez pas, en tout cas, sur les réseaux sociaux, Twitter, itteachers.fr, sur Facebook aussi. Hein, vous pouvez nous trouver aussi, nous laisser des petits commentaires, en tout cas, sur les émissions, sur des choses. Si vous voulez débattre un petit peu de certaines choses qu'on a dit ce soir, ou si on a raconté des bêtises aussi. Hein.
Vous avez des suggestions aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez nous retrouver, nous laisser nos commentaires aussi sur le site, hein, sur itteachers.fr, hein, en dessous des émissions. Sinon, vous retrouvez les émissions directement sur n'importe quelle application de podcast, aussi bien chez Apple que chez Android. Et vous pouvez aussi sur Spotify, vous pouvez nous trouver sur Spotify aussi. Voilà, vous pouvez aussi, si vous ne voulez rien louper, vous abonner par le bon vieux mail. Ça marche aussi. Voilà, et si vous voulez nous contacter plus directement, Seb, comment fait-on ?
Twitter, le petit oiseau bleu, et vous cherchez Stuteur, Stuteur.
Voilà, Guillaume qui n'est pas là, je vais le remplacer. Je crois que lui, c'est Willow_Teach.
Willow_Teach.
Voilà, si vous le contactez, et moi... Ce sera @jeff8342 et on se retrouve normalement dans 15 jours, j'espère, hein, qu'on va être un peu plus. C'est vrai que là, les derniers mois, ça a été un peu dur. Hein. Un peu ma faute, je l'avoue. C'est souvent ma faute.
Ah. Mais sans toi, on est un peu désemparés. Donc,
voilà, on va essayer en tout cas d'en faire au moins une dernière avant de partir en vacances. Hein.
Tout à fait.
À bientôt. Au revoir à tous.
À bientôt.
Ciao.
Au revoir.